Pendant que Michael, David et Marco gèrent leur saison des sucres 2025, c'est Jean-Étienne qui anime des entrevues avec les leaders des plus grandes entreprises manufacturières en acériculture. Cette série d'entrevues du podcast La fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec et Rimouski. L'invité de cet épisode est le cofondateur de LS Bilodeau, Sylvain Bilodeau, un fils d'agriculteur qui a bâti en compagnie de sa conjointe et de leurs enfants une entreprise spécialisée dans l'équipement de production acéricole et de chauffage de premier plan. Sylvain nous parle des origines de sa passion pour les sucres, de son parcours d'entrepreneur et des valeurs qui guident LS Bilodeau. Cet épisode de La fièvre des sucres vous est présenté grâce à la collaboration de Click2Go Elite qui vous offre une solution pratique et sécuritaire pour toujours avoir vos outils à portée de main en forêt. Ainsi que Québécole et sa gamme unique d'alcool 100% à base d'érable et fait entièrement de vrais ingrédients québécois. Et les entreprises forestières Serge Bureau, qui offre des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce sixième épisode du podcast La fièvre des sucres.
Bonjour Sylvain, je suis content de t'accueillir à la souche. J'ai compris que c'était ta première visite dans notre région.
Oui.
Je te parlais il y a un instant là, du haut potentiel acéricole. On parlera de ça peut-être un peu
en
conclusion parce que je veux d'abord qu'on parle de toi.
Okay.
Mon ambition aujourd'hui, c'est de, oui, connaître ton entreprise, mais la découvrir aussi sous l'angle des valeurs. Tu sais que tu nous parles un peu de l'histoire, tout ça. Parce que moi-même, comme acériculteur, je suis au fait de ça. Il y a beaucoup de manufacturiers acéricoles au Québec qui sont des entreprises, pas juste familiales, très familiales. Puis moi, c'est quelque chose qui me touche. Puis je trouve que c'est quelque chose qui fait la différence dans une industrie quand tout à coup, l'humain est là. Puis on le disait tantôt aussi, on fabrique un produit qui fait sourire autant les enfants que ceux qui n'ont plus de dents. Il y a quelque chose de magique dans cette industrie-là. Puis par des entretiens comme celui que je vais faire avec toi aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux faire découvrir aux gens. Leur faire découvrir que c'est pas une industrie banale. On est pas mal, c'est pas mal notre industrie à nous autres, les Québécois. Hein,
oui, on est un produit assez unique. Mm. Merci, Jean-Étienne, de m'avoir invité, puis je suis bien heureux d'être le premier. J'espère pas être le dernier.
Non.
Délicieux. Ben oui, c'est sûr que ça me fait plaisir d'avoir accepté ton invitation pour venir me déposer le mieux possible. Je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible, pas que les gens s'endorment. On a la chance de ne pas les entendre ronfler s'ils s'endorment. Mais on va essayer de les maintenir.
Je pense pas. Au pire, s'il y a un petit temps mort, il y a un évaporateur juste à côté, on ira mettre une bûche dedans.
S'il y a de l'eau dedans,
il y a des bonnes bûches.
Sinon, ça va me faire des pannes avant.
À mettre d'avance.
Ah, OK, bref, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, tu aimerais que je te fasse un petit résumé.
Bien, savoir un peu, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à la sériculture? Parce qu'il y a des gens qui naissent là-dedans, il y a des gens pour qui c'est un sans dire un accident, c'est quelque chose qui arrive dans leur parcours. Dis-moi un peu d'où tu viens, on va parler de ton entreprise, tes valeurs, puis j'aimerais ça aussi savoir où tu t'en vas avec tout ça. C'est le but de la rencontre.
Moi, je suis un fils d'agriculteur. J'étais né pour être en agriculture jusqu'à l'âge de 26 ans. Mais j'étais jeune à l'école du village. Je pourrais te nommer la sœur Liliane Rochon. À tous les printemps, quand le soleil commençait à apparaître dans les fenêtres, le soleil de printemps, mes yeux coulaient sur mon bureau. Le professeur me demandait, je me souviens, première, deuxième année, c'était évident, là. Les yeux se mettaient à couler, je voyais le soleil dehors. Le professeur me demandait, il dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain, que tu files pas? » Ben, il dit, « Je sais que les érables, ils coulent. » Puis je sais que, il dit, « Mon père, je pourrais aller l'aider. » Puis si vous me laissez sortir, je sais que je peux couper au travers des champs, mais je savais pas à l'époque que j'aurais eu deux rivières à traverser, mais c'est pas grave. Il y avait environ 4 pieds de neige. Je me disais, il y a rien pour m'empêcher. Je mesurais à peu près 4 pieds et demi de haut. La seule réponse qu'il y avait à ça, il m'attachait à l'infirmerie parce qu'il se disait, si on le perd, s'il sort, on le perd, on le retrouve pas.
Il y avait des rivières.
Oui. Eux autres, ils connaissaient qu'il y avait des rivières, il n'y avait pas de chemin ouvert. Mais pour te dire que, à chaque fois que j'arrivais à la maison, à cette époque-là, je me dépêchais de tirer mon sac d'école, puis j'enjambais les traces du cheval à grands pas pour faire environ 1 kilomètre de course pour espérer arriver avant que mon père parte pour s'en revenir. Fait que moi, là, c'était cet âge-là, j'étais baigné dans l'utilisation, courir les érables, m'occuper des chevaux. C'est ce qui manque peut-être dans beaucoup de sensations qu'on avait à l'époque, d'avoir un animal qui nous aidait à ramasser de l'eau, mais...
C'est sûr que c'est une partie de la sériculture qui
a disparu. Ouais. Disparu. Dans le commercial, ça peut pas être vu, là, mais...
Ouais. Un 4 roues avec des lacs, ça a moins de charme.
Ça a moins de charme, mais ça...
ça réagit plus vite.
Mais ça n'a pas le défaut de s'en revenir tout seul quand c'est fâché, de s'en revenir ça, avec la tonne d'eau qui est remplie, puis se rendre jusqu'à l'étable.
Ouais.
Là, il fallait revenir le chercher parce que c'était notre seul moyen de transport à l'époque. Mais ça, c'est du passé, mais... De fil en aiguille, avec les saisons, j'ai toujours resté un amoureux vraiment intense de la séricole et de l'agriculture en général.
Parce que tu fais encore de l'agriculture aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, j'ai racheté la ferme de mon père. On avait acheté une ferme. On entaille environ 8 à 10 000 entailles, là, tout dépendant des érablières. On en loue quelques-unes, là, puis on va même avoir des petites anecdotes tantôt là, qu'on va pouvoir énumérer, mais... Là, aller jusqu'à ce que je décide le métier que je voulais faire, qui s'est décidé en secondaire 5, je voulais aller en agriculture. Mon père m'a déconseillé d'aller là-dedans pour me dire, ben, j'enseignerai les rudiments de l'agriculture, puis trouve-toi un métier.
Tu avais déjà ton prof d'agriculture.
Oui, mon professeur était là, puis ça allait bien. Fait que j'ai flippé aux 25 cents carrément. Bon, je vais choisir le métier qui va sortir avec un 25 cents. J'avais ramené mes deux choix, j'avais électricité ou ferblanterie. C'est ferblanterie. On s'en va en ferblanterie, mais c'était pas le but de gagner ma vie là-dedans, parce que moi, c'était... Je vais finir mon secondaire 5, mais c'était en sixième année que j'avais à décider ça. Fait que je m'en vais en ferblanterie, puis je suis un gars qui se donne quand même assez quand j'essaie de... J'ai beaucoup de patience, c'est une des qualités que j'ai.
Ça compense pour d'autres, comme moi, qui en ont
que
moins.
J'ai pas, ouais, c'est ça. D'autres défauts
d'autres
que j'ai
patient.
Plus, ouais, c'est ça. Mais lorsque j'ai eu à choisir mon métier, je me suis donné quand même à fond, puis j'ai appris le plus possible des professeurs qui étaient prêts à me donner le plus d'énergie possible pour que je performe dans le métier que j'étais. J'ai appris à souder. Puis avec ça, j'ai dit, bon, ben, je vais être bon pour faire un petit bout de chemin à la ferme avec ça. Fait que à 16 ans, je suis sorti d'école, puis je travaille pour mon père pendant une dizaine d'années. Jusqu'au jour où je me rends compte que peut-être qu'on fitterait un petit peu moins bien pour aller plus loin. Il n'était pas prêt à vendre tout de suite. Puis moi, j'étais prêt à avoir plus de responsabilités puis plus de défis. Fait qu'on a eu une bonne discussion. Puis ça est venu à bout de dire, bon, ben, je vais continuer mon chemin. Et on verra plus tard comment ça va continuer. Fait que j'avais déjà acheté sur le bord de la 108 un petit local, un ancien local que... J'avais acquéri avec une soumission à l'époque, c'était une faillite. Puis on est arrivé 500 $ plus haut que l'autre qui avait soumissionné. C'était,
c'est le destin, hein?
C'était, oui, c'était vraiment dédié pour ça. Fait qu'on a décidé de se lancer. Puis là, ben, je me lançais devant une épopée que je savais pas qui aurait pris cette tournure-là. Mais je me souviens encore, je finis de dérouler la peinture au plafond, puis mes économies avaient toutes été mises sur deux petits équipements, une plieuse manuelle, quelques petits équipements que j'avais rénovés d'une usine qui avait brûlé, que j'avais sandblasté, peinturé, du travail pour travailler le métal, parce que je m'étais quand même resté dans le plan de travailler le métal en feuilles, la soudure. J'aimais quand même assez manuel. Fait que je me partais, puis je déroulais de la peinture au plafond, je suis dans le haut d'un échafaud, puis là, je me dis, j'espère qu'on n'a pas fait un mauvais choix, parce que toutes mes économies étaient dans mes équipements. Puis là, je venais de le locataire qui louait le petit garage que j'avais acheté, m'avait dit qu'il voulait me le laisser parce qu'il s'était trouvé un autre emploi. Tout fitait bien, probablement que c'était la destinée, qu'on pourrait dire. Là. Puis là, on déroule la peinture, puis on se dit, on va-tu avoir d'ouvrage? Je me souviens du premier coup de téléphone. Quelqu'un qui me dit, « Hey, Sylvain, tu t'es parti en affaires, oui. J'aurais une panne d'évaporateur à faire. » On est là pour ça, parce que j'en faisais un petit peu dans le garage de la ferme. Fait que c'est sûr que mon nom commençait à jaser tout seul. J'achetais les feuilles de tôle à l'unité, parce que j'avais pas les moyens d'en acheter plus que Si j'en avais besoin d'une, j'en achetais une. Si j'en avais besoin de deux, ce qui était une grosse vente, ben là, je pouvais me risquer d'en acheter une supplémentaire. Puis bien souvent, j'allais aussi acheter des matériaux où est-ce que je pouvais avoir des rabais parce que je n'avais pas les moyens de transport. C'est moi qui voyageais mon matériel dans des centres de tri où est-ce qu'il y en avait des fois des belles feuilles. Ça a commencé comme ça. Puis graduellement, depuis ce téléphone-là, je pourrais même te dire que j'ai pas eu le temps de finir de rouler le plafond de la peinture. Fait que on a enlevé les échafauds, ça c'est sûr, puis on s'est mis à travailler. La petite usine où ce que j'étais, on a monté une quinzaine d'employés. Parce que c'est sûr que jumelé à la séricole, bien, on avait le travail du métal, le galvanisé, donc la ventilation, les conduits de ventilation, ce qu'on a exploité quand même bien. Puis dans ces années-là, le textile est encore à l'honneur dans nos régions. Okay. Puis ça a monté jusqu'à un bon... La moitié de mon chiffre d'affaires était toute dans le textile.
C'est-à-dire que tu faisais de la ventilation pour des usines de textile?
Pour ces usines-là, parce que...
En gros, c'est beaucoup de fabrication de jeans,
des choses comme ça. Oui, exactement. Puis des grosses usines de Saint-Ephraim et Saint-Victor, Textile Duré, Lénage Victor, c'est des usines immenses remplies de conduits de ventilation au plafond. Fait que on était là pour ça, puis on donnait un bon service aussi, puis les gens appréciaient, fait qu'on leur donnait ce qu'ils voulaient.
C'était une époque où on était délocalisé beaucoup la production. Je l'ai vu, moi, j'étais dans l'industrie du plein air, compagnie comme Chlorophylle, toutes les productions partaient. Ça a duré un bout jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça revenait des fois dans des conteneurs tout croches, que c'était copié ailleurs.
C'est ça.
Là, on a perdu
tout ça.
Je pense qu'il y a quasiment 60 000 emplois dans le domaine du textile.
Ben oui, puis nous autres, pour nous, là, dans l'espace de, je te dirais, un an et demi, deux ans, on a perdu 2,5 millions de chiffre d'affaires dans notre entreprise.
Plus,
fait que là, non, on était essoufflés. On aurait dû voulu faire ventilation. Mais pas plus peur de ça que d'autres problèmes. On a retroussé nos manches. Puis on avait déjà encore une autre branche qui était la séricole. Puis on a diversifié un peu dans d'autres domaines. On a développé nos propres produits. On a commencé à aller plus loin dans le monde de la séricole. Puis on se faisait connaître. J'ai fait beaucoup, mais beaucoup. Si j'ai dit beaucoup, j'aimerais le dire beaucoup de fois. Beaucoup d'expositions me faire connaître. On peut parler de, pendant un été, 10 à 15 salons qu'on a fait dans les expositions agricoles, déménager toute la petite famille dans le campeur, habiter sur le site de l'exposition. Aller monter ça le jeudi soir.
C'est un peu la vie de fête foraine, ça, hein?
Oui, carrément.
Pour ça, ces événements-là.
Puis là, on s'en allait là, puis on donnait des cartes. Des fois, on faisait des ventes, des fois, non. Mais graduellement, ben là, on se greffait un petit réseau de ventes qui, aujourd'hui, nous donne les résultats qu'on a. Mais je pense pas qu'on l'ait... On l'a travaillé fortement. Puis on a des résultats...
C'est des origines vraiment artisanales. Tu fais une panne, tu fais ton père un peu dans la grange, puis tu achètes une feuille à la fois. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tu n'achètes plus les feuilles à l'unité.
on les achète à coup de milliers de livres. Mais une petite anecdote, dans les premières feuilles, je viens de te dire, j'achetais une feuille pour faire une panne, mettons. Puis une des fois, c'est une erreur, puis je me dis que je ne le dis pas à personne, mais les gens ne seront pas tous obligés de répéter ce que je vais dire.
Non, mais les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont fait des erreurs.
Ouais,
si tu ne fais pas d'erreur, c'est parce que tu ne fais pas de projet.
Ça me fait plaisir de dire quand je fais une erreur. Fait que quand quelqu'un en fait une devant moi, je lui dis...
Merci d'avoir fait à ma place.
Ben, j'ai dit, c'est ça, puis je lui demande, si tu as appris de ton erreur, on est gagnant. C'est juste si tu n'as pas appris, là, on est perdant.
Non.
Ça fait que ça, moi, je l'accepte l'erreur. Ça a toujours été. Puis... je faisais la panne d'un monsieur, puis dans une panne d'évaporateur, ben tu as deux boîtes, deux entrées, puis tu as un transfert à l'autre bout qui vient de circuler. On parle d'une panne à fond plat.
Mm-hmm.
Bon, ben moi, dans le brouhaha de tout ça, j'ai posé les deux boîtes, mais du mauvais bout de la panne. Quand je m'en suis rendu compte, des trous étaient faits dans le bout de la panne, fait que l'eau rentrait, elle traversait par ce côté-là, là. T'sais, j'ai pas eu le temps de la livrer au client, là, je te rassure. Je m'en suis rendu compte avant. Mais là, il me reste juste assez de tôle pour repatcher les deux trous, pour reboucher les deux trous, puis les repercer à l'autre bout. Mais je peux-tu te dire que là, j'étais nerveux un peu quand j'ai voulu livrer la panne au client. j'ai presque été obligé de le payer pour qu'il apprenne. J'ai dit. Puis aujourd'hui, j'aimerais pouvoir la retrouver, mais probablement qu'elle est détruite. Je l'aurais mis dans mon petit musée des équipements où est-ce que. Mais pour te dire que j'étais vraiment mal à l'aise aujourd'hui, ça serait pas long. Là. On serait tué avec une roue tracteur, puis on en referait un autre. Mais à l'époque, je l'avais un peu regretté. Mais ça fait partie des erreurs, puis je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué.
Mais des fois, c'est qu'on fait des choses comme ça, puis ça nous amène à prendre des engagements pour la suite.
Ouais.
Tu te dis, waouh, ça vient de m'arriver, je veux plus que ça m'arrive.
C'est ça.
Quelles mesures je vais prendre, quelle valeur je vais me donner, quelle façon de fonctionner on va se donner. Puis ça aussi, j'aimerais bien qu'on en parle quand tu y arriveras, de dire, justement, c'est quoi qui vous guide? Parce que chaque entreprise, que ce soit en agriculture ou ailleurs, fonctionne avec des valeurs. Puis ces valeurs-là, ils proviennent d'expériences initiales comme ça. T'sais, aujourd'hui, tu l'as dit, aujourd'hui, on n'y serait pas avec ça.
Non.
C'est une valeur que tu as.
Ben oui, c'est sûr.
Qui est liée au fait que tu as eu cette erreur-là. Puis en ce sens-là, c'est un apprentissage que tu connais.
Oui, nous autres, c'est sûr que aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est quand un client m'appelle et qui est content de ce qu'on lui a vendu. Les clients vont nous dire, ben hey, on est content de faire affaire avec vous autres, puis on est content que LS Bilodeau produise des produits. Les gens vont souvent nous féliciter pour l'innovation qu'on a. Moi, j'aime beaucoup développer, puis améliorer des situations. Oui, on fabrique beaucoup de sur-mesure, puis on développe des produits qui n'existent pas. Souvent, on est visé par nos concurrents pour des nouveautés qu'on amène sur le marché. Puis on en est fiers.
Puis vous débordez quand même de la sériculture, tu sais, le petit fromager, vous faites des fournaises, vous faites. Tu sais, il y a des choses périphériques. Puis ça, je pense que ça vous caractérise aussi un peu.
Oui, je pense que c'est une qualité qu'on a chez LS Bilodeau. Mais ça a tous un petit peu un lien. Tu le nommes en premier, le petit fromager, c'est l'agricole qu'on a dans le sang, puis qu'on est entouré d'agriculteurs autour de chez nous. Puis aussi dans les péripéties que j'ai eues, j'ai acheté une entreprise à Québec qui fabriquait des équipements pour des fromageries. Puis ça m'a permis, avec l'aide de Mélissa, qui m'a dit, « Papa, tu fais des mini-évaporateurs, pourquoi on ne ferait pas un mini-fromager? » De là est venue l'idée, on s'est engagé un maître fromager qui nous a dicté comment faire du fromage, mais là, on l'a miniaturisé, on l'a rentré de force d'un ordinateur pour que lui rende ça tellement simple que ça en est agréable. On en a même vendu un à Punta Cana il y a deux ans. On a vu le client encore la semaine passée, il était en train de prendre le monopole là-bas. Là. Il y a des choses légales, là, si on veut, mais si vous allez à Punta Cana, il y a un aéroport que vous allez manger du fromage fait avec un moyen fromager, parce que c'est un 400 litres, celui-là.
Okay.
Mais puis on pasteurise en même temps. Fait que c'est vraiment une gamme de produits à part, mais qui fait partie du métal, proche de l'agriculture. Quand on arrive avec des fournaises, on est dans le domaine du bois. Nous, on aime une bonne combustion. On a pris, j'avais un ami, qui est devenu un ami par la bande, un inventeur de système de combustion. Il est décédé maintenant, mais il a accepté de me transférer le plus de ses connaissances. J'ai voulu l'apprendre aussi.
Ça a été un maître pour ce
domaine-là. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, bien, je l'exploite encore. Mais on a transmis ça à nos évaporateurs. Faire une bonne combustion dans une poêle, dans une fournaise, bien, on est capable de transférer ces aptitudes-là pour être plus économe, plus propre dans les particules qu'on émet dans la cheminée. Puis qui dit plus propre dans la cheminée, bien, dit plus performant dans notre équipement, prend moins de bois, plus efficace. Ça nous amène
pour toi, c'est une évidence que ces choses-là fonctionnent ensemble, mais toutes les entreprises ne font pas ces choix-là. Puis il y a même déjà un banquier, je pense, qui t'a dit « diversifie-toi pas trop », mais aujourd'hui, ça te sert.
Donc c'est
un aspect, c'est pas un principe d'affaires, la diversification, c'est un choix que toi, tu fais, puis que tu assumes, puis que tu valorises dans ton entreprise.
Oui, exactement. C'est sûr que, oui, à l'époque, quand le banquier m'a dit, bien, c'était la première usine qu'on avait, où on était une quinzaine d'employés, on devait faire un move pour agrandir dans l'usine actuelle, qui a 45 000 pieds maintenant, bien, je voulais un emprunt, puis le banquier m'a dit, bien, tu dois te spécialiser dans ton métier, bien, être performant là-dedans. J'ai dit, moi, j'aime être un peu diversifié puis gérer une bonne part de l'entreprise, tant au niveau entrepreneurial de gérer la construction. Bien, j'aimais être au fait de tout ça en même temps. C'est probablement peut-être une maladie aussi, là. Fait que si ça se soigne, bien, il y a des médicaments quelque part que quelqu'un va pouvoir me prescrire. mais j'aime la vie que je fais. Je me considère à la retraite depuis une bonne vingtaine d'années, 20, 25 ans. Puis je suis vraiment heureux dans la situation où est-ce qu'on est.
Mais être à la retraite, moi je suis pas déjà là, mais je vois ça au loin des fois quand on vient. Est-ce que c'est pas déjà c'est loin, faire ce qu'on aime, la retraite? Tu sais, l'idée de la retraite, c'est rien faire. Non, ouais. Ça c'est la mort. C'est la mort.
Exactement.
Faire. Mais faire ce qu'on aime vraiment, faire ce qu'on a envie, en liberté, sans contrainte. C'est peut-être une vision de la retraite un peu plus inspirante, puis c'est ça que tu vis.
Bien, moi, c'est ce que je vis, parce qu'à tous les matins, quand je rentre chez nous, puis j'invite tous tes auditeurs à venir nous rencontrer, bien, on aime ce qu'on fait, puis on est outillé maintenant pour faire des produits qui vont franchir le temps. Parce que bien souvent, des produits qu'on fabrique, on le dit aux gens, ils ont tout un défaut. La plupart des produits qu'on fait, ils ont un fameux défaut, c'est qu'il faut qu'ils les inscrivent dans leur testament pour les donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils vont durer tellement longtemps qu'ils vont être pris pour le donner à quelqu'un, mais par testament, parce que ça a des bonnes valeurs jusqu'à la fin.
Tu parles de retraite, puis on a parlé de valeurs familiales. Si tu peux te considérer un peu en retraite, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont pris un peu ta place.
Oui.
Parle-moi donc un petit peu de cette importance-là, parce que moi, c'est une chose qui me touche, puis c'est quelque chose qu'on rencontre souvent avec le goût du territoire, qu'on fait des reportages, tu sais, le lien générationnel, puis en agriculture d'une manière générale, puis on oublie que la sériculture, c'est la première récolte de l'année, c'est une forme d'agriculture.
Exactement, oui.
Bien, c'est quelque chose d'important. On voudrait que ça continue. C'est normal, on veut manger encore demain. Parle-moi un peu de ça, le l'arrivée de Vincent, de Mélissa dans tes affaires. Y a-tu des moments où t'as douté? Y a-tu un moment déclencheur où t'es attrapé vraiment? C'est eux qui ont décidé ça?
Moi, Linda, mon épouse, qui est 50% et plus de ma réussite, là, on se l'était dit. À 50 ans, si jamais on n'a pas personne de nos enfants qui sont intéressés, on va peut-être penser à faire d'autres choses. Là, maintenant, Marie-Christine, Vincent, Mélissa, Pierre-Anne sont tous un petit peu intégrés dans l'entreprise, même plus pour certaines personnes.
Quatre enfants, moi, j'en connais
quatre. Oui, on a quatre. Tous avec avec Linda.
C'est une vraie gang.
Oui, on est une belle gang. Vraiment, là, puis c'est intéressant.
Ah, c'est cool.
Puis, moi, le plaisir de voir nos enfants graviter là-dedans, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ce que je veux, surtout, c'est qu'ils soient heureux dans le travail qu'ils font. Ça, c'est le primordial, je le répète souvent. C'est pas évident à faire. C'est pas facile à faire. Parce qu'avec les commerces aujourd'hui, c'est intense, c'est de la performance, c'est... on a beaucoup... je pourrais dire que c'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'a été pour moi et Linda lorsqu'on a commencé avec notre rouleau de peinture.
Tu penses, oui, c'était...
Oui, je suis sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est...
À cause des normes, des règlements,
le manque de personnel.
Le manque
de personnel, les qualifications. Maintenant, on travaille avec beaucoup de...
Haute technologie.
Beaucoup de... Bien, c'est sûr que si on veut suivre le marché, on n'a pas le choix d'être avec des équipements à la fine pointe. Sinon... dans 10 ans, on va être à la traîne de tout le monde. Puis chez nous, on n'est vraiment pas là. On est en avant pour la plupart de tout ce qu'on a comme équipement. Ça nous permet de pouvoir payer mieux notre personnel, parce qu'avec un bon équipement qui est plus performant, bien, on est capable de produire plus, mieux, dans moins de temps. Fait que c'est le but de notre business. Puis c'est agréable de faire ça tous les matins. Là.
Peux-tu me faire juste un petit topo? L.S. Bilodeau aujourd'hui, c'est quoi en termes de taille, puis avec toute la réserve, puis la pudeur, des choses que je
n'ai
pas obligé de savoir? Je ne te demanderais pas ton chiffre d'affaires.
Non.
Mais tu sais, les gammes de produits, il y a combien de produits dans votre inventaire et combien d'employés? Ça ressemble à quoi?
On est rendu avec 70 employés. On a 15 travailleurs étrangers maintenant. On a deux succursales, une à Saint-Éphrem de 45 000 pieds, une à Neuville de 10 000 pieds. Puis, on fabrique de la canne, on la distribue, mais on ne la fabrique pas, mais du baril de sirop, de l'érable, aller jusque dans le baril de sirop, on fabrique à peu près tout. Puis, on a des nouveaux produits qui s'en viennent, là, qui vont probablement
révolutionner. On peut parler ou pas?
Bien, c'est sûr qu'on se garde toujours une petite gêne, parce que on est toujours en développement.
Okay.
C'est des beaux produits qui vont aider à rendre encore plus facile la vie de nos acériculteurs et réduire leurs coûts de fabrication.
OK. À travers ce dont on peut parler pour l'avenir, Sylvain, pour toi, l'industrie acéricole, Moi, je, tu sais, ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai commencé à faire du sirop sur ma terre. Je ne savais même pas que j'avais des érables quand j'ai acheté ma terre à bois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'avais des grosses épinettes géantes, puis c'était construire ma maison en bois massif. Okay. Puis, quand je suis arrivé là, moi, j'ai spoté les épinettes droites. Puis quand j'ai fini de planter les épinettes, j'ai
dit,
oh, il y a des érables aussi.
Okay.
Là, on fait du sirop un peu comme tout le monde, c'est un chaudron propane. Puis on a fini par se faire une cabane. On avait de l'épinette. Ça fait une belle cabane en tonneau mortel, en timber frame.
Bien fait.
Puis on fait du sirop, c'est super. Fait que moi, je suis un observateur, puis tu sais, je regarde ça de l'extérieur, puis je vois que ça change. Juste dans, là, ça fait 10 ans que j'en produis de façon plus sérieuse avec un vrai évaporateur, puis tout le kit. Puis je suis observateur de ça, on produit des contenus pour le milieu. Puis je vois bien, ça change à vitesse grand V. Juste en 10 ans, ça a changé complètement. Juste la longueur des chutes qui allongent, ça finit plus.
Ouais, exactement,
mais,
oui.
Mais tu sais, ça change. Puis moi, je trouve que c'est une industrie qui est pas assez connue du grand public québécois. Les gens ont l'impression que c'est folklorique, le sirop d'érable, mais hey, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'univers plus automatisé que ça. Là.
Non, aujourd'hui, on est rendu connecté avec les cellulaires, on peut tous savoir à distance, jusque dans les fins de nos lignes les plus éloignées. On a ces équipements-là chez nous. Aujourd'hui, là, on peut contrôler du début à la fin du taux de sucre avec les variances infiniment petites dans l'évaporateur. C'est tous des équipements qu'on fabrique. On ressent, moi, en tout cas, je le ressens en tant que manufacturier, que les équipements sont tellement bien faits maintenant que nos acériculteurs vont avoir moins à dépenser un peu dans le futur, mais on a tellement beaucoup d'entailles à récupérer, comme dans notre belle région ici où on est, que ça va nous maintenir à produire ces équipements-là. Parce que la chance qu'on fabrique des produits présentement aujourd'hui, c'est tellement une durée de vie, si les gens leur font attention, que ça va durer dans le temps.
As-tu le sentiment que c'est perdu quelque chose? On parlait du cheval tantôt, c'est bon, c'est correct. On l'a pleuré, on l'a mangé, mais... tu sais, dans cette automatisation-là, as-tu l'impression, parce que je le vois, l'événement des centres de bouillage, et là, je dis, ce sera plus les sucres comme avant, mais de l'intérieur, as-tu le sentiment que l'esprit des sucres perdure?
C'est certain qu'il y a des côtés industriels, quand on tombe dans les 20 000, 15 000, 20 000 entailles et plus, là, on est rendu que les gens vont gagner leur vie avec ça. Quand tu restes en bas de ces quantités-là, bien là, tu vas avoir du familial. C'est ça. Les gens ne vivent pas que de ça, puis c'est correct aussi. Tous les niveaux sont acceptables.
Ah oui.
Mais non, c'est certain que moi, ça va rester tout le temps imprégné en moi. Moi, je ne rendrai pas à être industriel dans le sirop d'érable.
Pour ce qui est de ton exploitation personnelle.
Pour mon exploitation personnelle, avec les 8 à 10 000 entailles qu'on a présentement, on fonctionne très bien, puis ça va très bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, la régie à l'intérieur d'une érablière, c'est plus qu'important, parce qu'une des érablières que l'on a louée l'année passée, qui était vraiment une mauvaise régie, pas de nettoyage, des chutes à cette longueur-là, on s'est rendu compte que c'était 50 % de... On l'a loué au mois à fin janvier. On ne peut pas dire qu'on avait beaucoup de temps
pour l'aménager.
C'est ça. Mais ça fait toute la différence. Ouais. Toute la différence. Puis les gens gagnent à étudier là-dedans pour suivre les nouveautés puis comprendre comment l'érable vit, même dans les changements climatiques qu'on a, parce que là, la saison va se rapprocher de janvier plus qu'elle était auparavant, où El Niño va nous jouer des tours puis nous ramener ça à...
Puis il y a le territoire aussi. Moi, je fais ça que je suis au début de mai. T'sais, mon record, c'est 8 mai, puis j'avais arrêté par choix.
OK, ça fait que...
On est dans le nord ici. On parlera pour finir un petit peu de la région ici, mais juste avant, j'aimerais ça que tu dises, tu es un entrepreneur, tu as une entreprise qui est plus que fonctionnelle, tu es florissant, ça marche bien. Mais pourquoi prendre le temps de faire des sucres et 10 000 entailles? C'est du travail. C'est de la peau faire ça. Moi, j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que ça t'apporte, Sylvain, toi, dans ton année? Je sais ce que ça m'apporte à moi, mais j'ai intéressé de savoir, qu'est-ce que ça donne? Tu sais? Moi, j'entends chez nous, on a 300, là, on fait 250 litres de sirop. C'est un petit truc, je sais pourquoi je le fais. C'est mes vacances dans le sud que j'ai pas le temps de faire, je le fais à la maison. Mais toi, tu fais ça, qu'est-ce que ça te donne? Tu sais?
C'est vraiment une maladie, là. La fièvre du temps des sucres. Puis j'ai un dessin qui me suit depuis le tout début de mon entreprise, qu'une petite fille d'un client avait coloré pour moi. Puis c'est carrément une madame, une infirmière, dans une érablière, les bras croisés, avec une érable, un chalumeau, puis on voit avec de l'eau qui coule, avec une intraveineuse, on voit la sériculteur allongée sur un lit de camp, puis c'est écrit « La fièvre du temps des sucres ». C'est ce qu'on a, c'est ce que moi j'ai, c'est ce que mon épouse a. Puis c'est ce qu'on aime répandre, parce que quand un client vient me rencontrer, là, j'essaie juste de comprendre s'ils ont la fièvre du temps des sucres. Quand ils ne l'ont pas, je leur dis « Vous risquez de tomber malade. » Parce que si vous tombez malade, on va se revoir. Puis si on se revoit, bien, vous allez être heureux, parce que vous allez dire « Là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais dépenser encore, puis je sais que je ne ferai peut-être pas d'argent parce que c'est petit.
Ouais. »
Mais je leur dis tout de suite au commencement, « Vous ne ferez peut-être pas d'argent quand
ben
vous musculez. » Mais c'est une maladie c'est parce que l'arbre se réveille au printemps. On dirait que c'est un peu comme nous aussi quand les chaleurs commencent à arriver. Il fait 3 degrés, puis on se croirait à 26 degrés pendant l'été, mais on se dit tout s'épanouit, puis je pense que c'est intra...
C'est pas une célébration de fin de l'hiver, puis
exactement.
Côté de rassemblement aussi, on va se le dire.
Oui.
Il y a des mondes qui se réconcilient dans des cabanes à sucre.
Oui.
Les voisins, on veut tout y aller à la cabane à sucre, on est tous égaux.
Oui, exactement.
Il y a beaucoup de classe sociale. Là,
puis ça se colle, ça se beurre un petit peu, des fois ça se gomme, mais c'est vraiment du côté agréable. Chez nous, en tout cas, c'est un beau coin de rencontre de tous nos amis puis la parenté. C'est un beau point de ralliement. Il faudrait que ça reste comme ça le plus possible.
Moi, j'aimerais ça, en terminant, juste qu'on discute un petit peu du potal. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que c'est sûr que si on va en Beauce, on va dans différentes régions du Québec, le potentiel est déjà fait, même juste en Portneuf, à côté de chez nous. S'il faut qu'il y ait 1000 entailles de libre, ça va se battre pour l'avoir.
Ouais.
Si je t'apprenais tantôt, avant qu'on commence, c'est 3 millions d'entailles de potentiel de notre MRC, 2 millions accessibles chemin public, toutes d'État privé. Puis, on a l'ambition, là, avec la Société de développement économique, d'en développer 1 million. On a juste, à peu près, 100 000 entailles en service. Moi, je veux entendre ton point de vue là-dessus. Tu te sens-tu comme un cow-boy? Tu te dis, oui. De la ruée vers l'ouest, on ouvre des frontières. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la chance qu'on a de vivre ça ici.
Bien, vous autres, vous allez voir, là, si c'est accessible, parce que le côté négatif un peu là-dedans, c'est que là, ça s'étend tellement vite avec la vision aujourd'hui d'Internet, c'est que le prix est accessible aux personnes qui vont vouloir acquérir ces parcelles-là.
Ce qui est magique, Sylvain, c'est des gens qui possèdent déjà ces terres-là puis qui ne savent même pas qu'ils peuvent faire du CO, puis on les apprend. C'est ça qui se passe en ce moment.
Je vais lui parler.
C'est des gens qui se disent « Ah oui, puis ça peut m'aider à payer mes taxes. » Mais certains, comme là, on a la forestière Jacques-Cartier ici. Il y a un club là, de pêche et de chasse, puis une entreprise forestière qui est associée à ça pour les membres. Bien là, ils démarrent. C'est 27 000 entailles cette année. Ils vont monter à 60, puis ils ont un potentiel de 100-120. Les gens ont l'impression qu'on vient de faire apparaître ça, mais je pense que c'est à cause des montagnes. C'est rude un peu, ça semblait moins accessible par le passé.
Oui, mais aujourd'hui, avec tous les équipements qu'il y a, puis les connexions qu'on est capable d'avoir, les gens, dans leur cabane à sucre, sont capables de savoir tout ce qui se passe à la grandeur de toute leur récolte. Puis aujourd'hui, déménager de l'eau d'érable, c'est rien, là. C'est plus un problème. La plupart du temps, on va la concentrer pour diminuer
le réduire les volumes.
Fait que c'est
on enterre les tuyaux principaux.
Ah oui, c'est ça.
On est ailleurs qu'avant,
là. Ça, c'est certain. Mais non, pour moi, personnellement, en tant qu'entreprise, c'est une belle mine d'or.
C'est ça, c'est un Eldorado.
Oui.
Parce qu'il y en a-tu d'autres régions comme ça où tu t'entends, tu te vois, oui, là-bas, il y a encore un peu d'espace?
Dans le coin de Mont-Laurier, je crois qu'il y en a beaucoup à développer. C'est des terres publiques, peut-être. Puis là, j'entendais un reportage très intéressant cette semaine qu'il y a des associations qui veulent
militer
pour protéger des érables des terres publiques pour éviter qu'ils soient bûchés à blanc. Là, parce que c'est un revenu annuel.
Et voilà.
Qui se renouvelle.
Un érable mature qu'on bûche pour faire du plancher, ça rapporte 60$, 80$. Un entaille chaque année, c'est pas long qu'on le ramasse.
Puis l'érable va vivre entre 200 et 300 ans. Là. Ça fait qu'avant qu'elle soit revenue, moi j'ai une plantation qui a 30 ans. On réfléchit déjà à commencer à la. Je pensais d'être obligé de me promener en chaise roulante entre elles là, pour réussir à l'entailler. Puis apparemment que. Je vais être capable de la cultiver, d'avoir des récoltes. Puis ça a été planté dans des champs où est-ce que ça a été engraissé par des anciens agriculteurs. Puis je pense que je vais avoir des belles récoltes, là, toutes dérangées en belle droite. Je pense que c'est un petit vidéo qui peut voir là, où est-ce que je fais la démonstration il y a 3-4 ans. Mais on a de l'érable là, dans ces grosseurs-là. Ça va être vraiment intéressant. Puis c'est adjacent à notre érablière
Puis d'ailleurs, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, tu t'exposes quand même un peu, Sylvain, même si tu vas sur des réseaux qui sont faits pour des gens peut-être d'un autre âge plus jeune, là, TikTok ouais. et compagnie, mais tu leur donnes des bonnes leçons de...
Bon, ben, il y en a entre autres 19,3 millions. Ceux-là qui veulent voir une petite bûche qui rentre dans un évaporateur, là, ben...
S'il avait fallu avoir une pièce par vue, ça aurait été le fun, ça.
Oui, j'aurais aimé ça, même une scène, ça ne fait pas pire. Mais non, c'est intéressant, puis je le fais pour... rendre les gens accros à tout ce que je fais tout en montrant un peu ce qu'on fabrique.
Ouais.
Parce que j'aime montrer aux gens que tout ce qui est fabricable par les mains de notre entreprise, on est capable de le montrer. J'aime agrémenter ça. Ça fait que celui-là qui
va ce qui est agréable dans la façon dont tu te présentes aussi sur les sociaux, c'est qu'on voit tout de suite que tu es quelqu'un de sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux.
Exactement.
Ça, pour moi, c'est une des plus grandes qualités. On ne sait pas trop ce qu'on fait ici. Mais pendant qu'on est vivant, on peut faire du sirop.
Exactement. Tu as
l'air d'avoir de
moi,
plaisir à le faire.
J'en ai beaucoup. Puis là, j'essaye aussi d'inculquer ça aux nouveaux arrivants. Juste en terminant, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus, je peux te la conter.
Oui, vas-y, si ça m'intéresse.
Bien, on embauche des fois les travailleurs étrangers pour nous aider
à... latino-américains, pour l'essentiel, j'imagine.
Non, ben oui. Oui, c'est ça. Ils sont du Pérou, nous autres. Puis c'est justement à peu près la taille d'une érable un peu plus petite que... Mais celle-là pourrait l'être, là. Mais c'est... je les utilise pour venir laver la tublure. Puis moi, ma méthode pour vérifier si je peux mettre deux entailles, ben je fais le tour de l'arbre comme ça pour voir si le format est assez gros pour avoir une entaille ou deux entailles. Puis la madame, la femme d'un de nos employés qui était là pour nous aider, elle me regardait faire, puis elle dit, pourquoi vous faites un hug? Pourquoi vous donnez un câlin à vos arbres? Ben là, je lui ai expliqué que c'était pour mesurer l'entente, mais elle pensait que je leur donnais un câlin pour leur dire...
T'avais la fièvre pour vrai.
Mais en même temps, je le fais, là, t'es là, puis ça avait l'air vraiment d'être un amoureux des érables. Puis j'en suis un pour vrai aussi, là. Ça fait que... Mais c'est drôle, mais ces gens-là, ils apprécient. Pour lui transférer cette passion-là. Puis quand on les avise qu'on fait un petit party à cabane, ils nomment tout le temps présent. Oh, que oui. Oh,
mais
oui.
Tu sais que dans les cultures latino-américaines et dans la culture québécoise, on a un trait d'union commun qui nous ramène à la cabane, c'est les oreilles de gris, ce qu'eux appellent la chicharron. Hein?
Ah
c'est
oui,
la
OK.
Même chose. Ils connaissent ça.
Okay.
Si tu n'as jamais eu la chance, tu peux les en manger.
Okay.
Ils vont te demander où on peut acheter ça à Québec.
On va le faire.
Moi, Sylvain, je suis très satisfait de t'avoir accueilli aujourd'hui dans notre région en plus, parce que moi, j'aime faire la promotion aussi de la MRC de la Jacques-Cartier. Je veux que ça se développe dans notre coin. Ça me touche beaucoup que tu aies pris le temps de. Partir de aussi loin que la bourse pour venir nous voir.
Pas de problème avec ça.
Et content aussi de permettre aux gens qui vont nous écouter de voir que, tu sais, il y a une humanité en acériculture. C'est pas une industrie comme les autres, c'est pas vrai. Oui, c'est de l'industrie, mais c'est quelque chose de différent, quelque chose qui nous appartient, puis qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on en entend parler un petit peu chaque année dans le temps des sucres, ça passe dans les journaux, mais il y a tellement à découvrir. Puis tu nous as permis de découvrir cette dimension-là humaine à travers ton propre parcours.
Ça m'a fait vraiment plaisir.
C'est super gentil. Puis je te dis, ben bonne patience en attendant que les sucres 2025 commencent.
On se prépare déjà.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci.